Les paractualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du 28 février 2018. Hélène Denis au micro et en manchette, le budget de 2018, quelques mesures pour répondre aux besoins des aînés canadiens. Maladie rare, une journée pour en parler. L'athlète paralympique Yves Bourque à la veille de son départ pour Pyeongchang. Le Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario hausse le ton. En entrevue, je reçois Léo Lavoie, coordonnateur de la formation au Centre de formation en alimentation et commerce du Québec pour nous parler d'une formation commis d'alimentation, et Alice Charras, directrice générale du RACOR, le réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'île de Montréal, pour parler du premier colloque québécois sur le trouble d'accumulation compulsive. Le budget de 2018, quelques mesures pour répondre aux besoins des aînés canadiens. L'Association médicale canadienne AMC se réjouit de constater que le budget de 2018 présenté hier aborde certains domaines où le gouvernement du Canada peut agir pour améliorer les soins aux aînés partout au pays. Comme l'avait indiqué l'AMC dans son mémoire présenté au gouvernement, nombre de ces initiatives assureront l'équité sociale et augmenteront la productivité, deux thèmes clairs dans le budget. Comme le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées de la Chambre des communes devrait présenter sous peu ses recommandations sur les soins à la population vieillissante du Canada, l'AMC, l'Association médicale canadienne et ses membres trouvent encourageant qu'un financement soit prévu pour améliorer l'approche dans les domaines de la démence, des soins à domicile et communautaires, et des conditions de vie souvent différentes pour les femmes au sein de la population vieillissante. De plus, l'association applaudit plusieurs initiatives portant sur d'importants enjeux de santé publique et les déterminants sociaux de la santé, comme l'octroi de fonds pour aider à contrer la crise des opioïdes, une sensibilisation aux effets potentiels du cannabis sur la santé et l'offre d'eau salubre dans les réserves afin d'assurer la santé des familles. Et c'est signé Dr. Laurent Marcoux, président Association médicale canadienne. Nouvelle tirée de québecscience.qc.ca, maladie rare, une journée pour en parler. Chaque année, la dernière journée de février, déclarée Journée internationale des maladies rares, permet de sensibiliser et d'informer sur ces maladies méconnues. Par définition, une maladie rare est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000. C'est par exemple le cas de certains cancers, malformations, maladies auto-immunes ou de la plupart des maladies génétiques. Au total, on a dénombré dans le monde de 6000 à 8000 maladies rares. Près de 75 % de ces maladies touchent les enfants et plus de 80 % d'entre elles sont d'origine génétique. Certaines de ces maladies sont détectées à la naissance ou in utero, lors de la grossesse, d'autres débutent dans l'enfance, d'autres encore à l'âge adulte. Au Québec, près de 500 000 personnes souffrent d'une maladie rare. Cette année, le 28 février 2018, marque la 11e édition de la Journée mondiale des maladies rares, portée par le slogan « Rare, fier, soyons solidaires ». Lancée en 2008 par Eurordis et le Conseil des Alliances nationales, la Journée mondiale des maladies rares regroupera 90 pays pour son édition 2018. Les personnes concernées sont invitées à publier sur les réseaux sociaux une photo avec du maquillage en utilisant les mots-clics « Show your rare » ou « My rare » ou « Rare disease day ». Je joins Léo Lavoie, coordonnateur de la formation au Centre de formation en alimentation et commerce du Québec, pour parler d'une formation en commis d'alimentation. Bonjour, Monsieur Lavoie.
Bonjour, Madame Denis.
En quoi consiste cette formation?
C'est une formation en ISP, insertion socio-professionnelle de commis de l'alimentation, dont on touche différents volets d'un marché d'alimentation pour permettre une employabilité à des gens avec une déficience intellectuelle légère ou troubles du spectre de l'autisme.
Alors, c'est ça, c'était ma deuxième question. À qui était destinée cette formation? Vous avez répondu. Donc, pour les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle.
Exactement, oui.
Et quelles sont les adaptations apportées en lien avec cette clientèle?
Bien, les adaptations, disons qu'il y a à peu près 70% du volet technique qui est vraiment manuel de l'apprentissage, je dirais, kinesthésique. Là, ils vont l'apprendre en le faisant, en travaillant dans différents ateliers. Et 30% sur un retour d'activité. Suite à l'essai, travail, essai-erreur, là, parce qu'ici, on le doit à l'erreur et c'est très formant.
Oui, j'imagine.
Donc, on a ça. On a aussi un volet où le vendredi après-midi, ils sont en classe de yoga.
Ah oui?
La gestion du stress, la gestion de l'anxiété.
Oh.
Et le lundi après-midi, avec Ali et les princes de la rue, un atelier physique, conditionnement physique, gestion de la colère et de l'agressivité.
Quelle bonne idée.
Oui.
Oui, on devrait s'inspirer de cette formation-là, là, parce que c'est vraiment assez complet. Est-ce qu'il y a des débouchés possibles?
Toutes nos formations sont attachées avec un partenariat, une entreprise partenaire qui offre non seulement un stage, mais une perspective réelle d'emploi. Et qui plus est, dans ce cas-ci, c'est Metro et Super C, donc une grande bannière de l'alimentation. Et la vice-présidente et siège sur le conseil d'administration de l'Institut Douglas. Donc, elle a une belle ouverture sur tout ce qui est déficience intellectuelle et limitations quelconques.
C'est important, ça, être entouré de gens qui sont sensibilisés et conscientisés. Est-ce que vous avez un chiffre, un nombre, combien de personnes trouvent du travail après la formation de commis d'alimentation?
Suite à notre formation, ils sont en stage 8 semaines en entreprise.
Mm-hmm.
Et bon an, mal an, on place à peu près 80-81% de nos candidats.
Ah, mais c'est
élevé. Sinon, on les retourne vers une ressource qui va les encadrer, les aider là, dans leur démarche vers l'emploi. Mais tout ça est possible grâce à un partenariat donc avec Action Main-d'œuvre qui s'implique avec un suivi d'une intervenante en temps réel tout au long de la formation, avec Sphère Québec qui enlève tous les embûches ou les cônes oranges qui limiteraient l'accessibilité à l'emploi de nos élèves. Pardon?
Ni de poule compris.
Ni de poule compris, oui. On les pave à mesure qu'on en trouve un.
Oui, mais c'est bien ça.
Oui.
Est-ce que c'est une formation qui a lieu à chaque année?
Oui, pas toujours à date fixe, parce qu'on parle toujours des besoins de la clientèle. Donc, quand on a un bassin de clients qui est désireux de venir travailler dans un marché d'alimentation, ou ça pourrait être dans une boucherie, une poissonnerie, tout ce qui est alimentation. Donc, on développe la formation autour des besoins des candidats, et ensuite en partenariat avec l'entreprise qui, eux, sont prêts à les accueillir selon leurs besoins en main-d'œuvre.
Oui, oui, vous avez un calendrier. Est-ce que la formation, est-ce qu'il y en a une qui s'en vient bientôt?
Bien, on en a une qui vient de commencer, donc il nous reste une ou deux places de disponibles, inscription possible via Action Main-d'œuvre jusqu'à mardi prochain, parce qu'ensuite, le tronc commun sera terminé. Ils vont tomber dans la formation hygiène et salubrité, qui est une diplomation qui leur appartient à eux tout au long de leur vie. Et une fois que ce seuil-là est passé, c'est difficile d'intégrer un nouveau participant, mais on est en entrée continue jusqu'à mardi.
Ah bon, d'accord. Alors, on a encore quelques jours
et
il reste au moins deux places.
Oui.
Et j'étais curieuse de savoir les personnes qui suivent cette formation-là. Vous avez dit qu'il y avait du yoga et aussi des espèces de séances pour essayer de combattre la colère.
Oui.
Et est-ce que c'est probant? Est-ce que ça fonctionne bien? Comment ils reçoivent ce genre de formation-là?
Bien, on s'associe avec les meilleurs possibles. Donc, Ali et les princes de la rue, c'est quelqu'un qui a fait ce cheminement-là personnellement pour devenir champion mondial.
Il sait de quoi il parle.
Oui, ouais. Il sait de quoi il parle. Et ses intervenants sont tellement magnifiques que probablement, et on l'espère, on travaille avec nos partenaires, que dans toutes nos formations ouvertes ici au CEFAC, on va pouvoir avoir cette activité-là.
Mm-hmm.
Parce que c'est vraiment, vraiment génial. Là. Ça fait une grosse différence dans le cheminement des gens.
Et Ali, est-ce que c'est aussi celui qui enseigne le yoga?
Non, le yoga, c'est une autre intervenante dont j'ai oublié le nom. Là.
Bon, c'est pas grave.
C'est aussi une maître de yoga, principalement avec les gens qui ont une limitation, soit émotionnelle, sensorielle ou physique.
Ah oui. Et ceux qui donnent la formation en tant que telle pour être commis oui. d'alimentation, j'imagine que ce sont aussi des gens d'expérience, des professionnels, des gens qui ont aussi une expérience avec votre clientèle.
C'est essentiel.
Oui.
C'est essentiel pour la réussite, pour la capacité aussi de transmettre nos messages. On doit être sensibilisé et la plupart de nos formateurs, ben pas la plupart, tous nos formateurs sont sensibilisés par leur famille au quotidien, par la déficience intellectuelle
ah,
ou
oui.
spectre de l'autisme ou surdité ou problème de vision. Donc, c'est tous des gens là, qui baignent là-dedans depuis leur tendre enfance.
Oui. Vous avez parlé de formateurs. Est-ce qu'il y a aussi des formatrices?
Oui, oui, plus de formatrices que de formateurs.
Ah. Alors, ben, ça valait la peine de vous poser la question.
Oui.
Léo Lavoie, coordonnateur de la formation au Centre de formation en alimentation et commerce du Québec. Ben, merci beaucoup pour cette entrevue. Puis, j'imagine que vous allez avoir des nouvelles là, parce que ça va se remplir assez vite. Deux places.
Bien, on l'espère.
C'est jusqu'à mardi.
On l'espère.
Oui, c'est gratuit. C'est gratuit.
Oui, absolument.
Parfait.
Absolument.
Merci.
C'est bon. Merci
au
à vous, Mme Denis. Bonne journée.
Vous aussi. Sur le site de Radio-Canada, l'athlète paralympique Yves Bourque à la veille de son départ pour Pyeongchang. Yves Bourque est non seulement le seul athlète de la région à participer aux Jeux paralympiques de Pyeongchang, mais il sera aussi le plus âgé des skieurs paranordiques en Corée du Sud. Nous l'avons rencontré à quelques jours de son départ. C'est certain que le stress commence à embarquer à mesure que les journées avancent, raconte Yves Bourque. L'athlète paralympique de Bécancour s'envolera le 4 mars pour les Jeux paralympiques de Pyeongchang. Yves Bourque est né sans jambes, en est à ses deuxièmes Jeux paralympiques. Il a participé à ceux de Sochi en 2014. C'est avec une grande fierté, juste le fait d'avoir mon billet pour une participation, c'est déjà pour moi une grande victoire et on va faire notre maximum pour avoir le meilleur résultat, dit M. Bourque. À l'âge de 52 ans, il affirme qu'il sera le plus vieux des skieurs paranordiques aux Jeux paralympiques. Le skieur a pu tester les pistes à Pyeongchang. La Coupe du monde a eu lieu dans cette ville coréenne en mars 2017. Yves Bourque y avait fait sa meilleure performance, ce qui l'encourage. Ce dernier espère surtout se démarquer lors de la course du 7,5 km. Les Jeux paralympiques de Pyeongchang se déroulent du 9 au 18 mars. Dans le Journal de Montréal, un CHSLD blâmé pour la mort d'un patient. Un coroner vient de blâmer un CHSLD pour la mort d'un patient, décédé donc après avoir reçu un coup de poing d'un autre résident alors qu'il n'y avait pas assez de surveillance. Le coroner, Richard Drapeau, a blâmé le CHSLD d'Argile de Sherbrooke dans son rapport rendu public mardi, entourant la mort de Serge-André Guérin. Ce résident de 74 ans est mort après avoir été agressé par un usager le 3 octobre 2016. En début de soirée, l'agresseur a tenté de frapper un préposé au bénéficiaire. Il est allé se calmer dans sa chambre et il a recommencé à circuler librement. Vers 22h15, il est entré dans la chambre de M. Guérin et a lancé « Je vais le tuer » en donnant un coup de poing au visage de la victime qui s'est effondrée. M. Guérin s'est trouvé en détresse respiratoire et est mort peu de temps après en raison de ses problèmes cardiaques. Le coroner ordonne au CHSLD de Sherbrooke de noter chaque agression et d'en informer rapidement l'équipe médicale, ce qui n'avait pas été fait le soir du drame. Il recommande de mieux identifier les usagers à risque d'être agressifs et d'augmenter leur surveillance. M. Drapeau demande aussi d'appliquer les 16 recommandations identifiées par le CHSLD à la suite de ce décès. Selon Sylvie Moreau, directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au CHSLD Argile, les recommandations sont en voie d'être mises en place. Selon elle, 45 % des actions sont déjà réalisées et les autres sont en cours de réalisation. On joint maintenant Alice Charras, directrice générale du RACOR, le réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'île de Montréal. Bonjour, Mme Charras.
Bonjour, Mme Denis.
On parle avec vous, entre autres, du premier colloque québécois sur le trouble d'accumulation compulsive qu'on appelle le TAC-TAC. Qu'est-ce qu'un TAC?
Oui, alors le TAC se caractérise par une difficulté persistante à jeter ou à se séparer de certains objets, indépendamment en fait de leur valeur réelle.
Ah oui, d'accord.
Il peut conduire à un encombrement tel que cela même empêche la personne qui accumule ces choses d'être fonctionnelle. Ça peut aussi créer beaucoup d'isolement et diminuer son estime de soi. Et souvent, ce n'est pas visible chez la personne parce que ça se déroule en fait dans son toit de vie.
Oui,
c'est ça.
Oui. Alors c'est quand on peut accéder à la maison ou en tout cas au lieu où la personne habite qui est aux prises avec un TAC qu'on peut se rendre compte qu'il y a un problème.
Effectivement.
Oui. Et pourquoi un colloque sur le sujet?
Alors justement parce que le TAC c'est quelque chose de caché. Il est possible vraiment d'en souffrir sans symptômes apparents pour les proches qui donc ne s'en rendraient pas compte. Mais par contre, il y a vraiment un réel besoin de tisser une toile entre les milieux de la santé, du communautaire, du municipal également pour dépister ce TAC-là et trouver des solutions pour aider les personnes qui en souffrent. Et donc, ce colloque est né justement pour pouvoir voir s'il y avait des solutions pour pouvoir aider ces patients dans l'avenir.
Mm-hmm. Alors, c'est le premier au Québec. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont... parce que vous dites que c'est difficile de savoir qui souffre du TAC, étant donné que on ne peut pas s'en rendre compte en rencontrant la personne nécessairement, à moins qu'elle le dise.
Mm-hmm. Il y a plusieurs personnes, puis ce qui est intéressant, c'est que le colloque est né en fait d'un comité sur le TAC, et sur ce comité-là, des personnes elles-mêmes en fait souffrant de ce trouble font partie de ce comité, et il a été décidé donc avec justement la participation des personnes qui en souffraient elles-mêmes d'organiser un colloque.
Ah oui.
Pour justement que ce soit abordé. Puis vraiment, c'est la beauté de ce premier colloque, c'est qu'on a vraiment une pluralité des partenaires autour de l'organisation de ce colloque, des chercheurs, des organismes communautaires, des patients donc souffrant de ce trouble.
Mm-hmm.
Et ensemble, on va vraiment réaliser le premier colloque donc québécois pour justement, comme je disais, trouver des solutions et aussi briser ce tabou-là.
Oui. Combien de personnes sont attendues à votre colloque?
300 personnes.
Ah oui?
C'est vraiment, on est très contents pour un premier événement. C'est vraiment
un succès.
C'est génial.
Oui. Et ça va se passer donc le 22 mars à l'Hôtel Universel qui est situé au 5000 rue Sherbrooke-Est. Et si les gens ne peuvent pas se rendre à votre colloque parce que j'ai entendu entre les lignes que c'était complet...
Oui, c'est complet, malheureusement. Bon, par contre, donc comme c'est un premier événement, c'est sûr qu'on veut que ce soit un événement annuel. Donc, on veut faire en sorte vraiment que chaque année, ce colloque-là ait lieu. On a été un peu victime de notre succès, là, c'est complet.
Mm-hmm.
Mais par contre, il existe quand même des ressources pour en savoir davantage.
Oui.
Sur ce truc-là.
Quelles sont-elles, ces ressources-là?
Alors, je vais juste en nommer une parce qu'il existe aussi énormément de groupes de parole et d'organismes communautaires, mais majoritairement pour Montréal. Donc, peut-être que je pourrais donner les informations parce qu'il y en a vraiment beaucoup des groupes de parole, mais c'est plus pour Montréal. Par contre, je pourrais au moins donner l'information qui est le Centre d'études sur les TOC et les TIC, donc un centre de recherche. Et je peux donner l'adresse courriel de ce centre.
Certainement.
C'est www.tic.org.
Bon, ça fait tic-tac-toc.
Effectivement.
Oui, c'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Parce
oui.
que ceux qui souffrent soit du TOC ou du TIC ou du TAC, ce sont des personnes qui sont souvent en souffrance.
Oui, effectivement.
Mais il y a de l'espoir.
Oui, il y a beaucoup d'espoir et c'est pour ça d'où le colloque et le RACOR, entre autres, salue vraiment l'initiative que ce sont des personnes dites accumulatrices qui vont participer participé, en fait, qui ont participé et qui participeront à ce colloque-là, donc comme aussi acteurs de solutions.
Bien, c'est parfait. Madame Charras, en terminant, il nous reste une petite minute. Vous offrez une formation gratuite en ligne pour lutter contre la stigmatisation dans le milieu de la santé. Qu'est-ce que c'est exactement?
En fait, nous, c'est pas nous qui l'offrons, mais on salue l'initiative de la Commission de la santé mentale du Canada et du Centre de toxicomanie et de santé mentale qui ont mis en place donc cette formation gratuite en ligne pour lutter contre la stigmatisation. Surtout, en fait, c'est pour les fournisseurs de santé, donc dans le milieu de la santé. Et les cliniciens de première ligne sont souvent confrontés à des personnes donc, qui vont souffrir de problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Et le fait d'offrir une formation gratuite en ligne, ça permet d'accéder et de sensibiliser beaucoup de cliniciens et de fournisseurs de services de santé. Donc plus facilement, en fait, donc c'est vraiment une belle initiative là pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale et donc de pouvoir réduire...
De se sentir mieux comprise.
Oui.
Oui, d'accord. Alors, c'est bien. Il y a une longue adresse, là. Je ne sais pas si vous l'avez en tête.
Oui.
Si on veut faire cette formation.
Peut-être que je pourrais juste inviter les personnes à aller sur le site de la Commission de la santé mentale du Canada, ou du Centre de toxicomanie et de santé mentale. Parce que l'adresse est vraiment longue.
Oui,
donc,
oui.
Par contre, je ne l'ai pas en tête, l'adresse exacte, mais si les personnes tapent CAMH pour le Centre de toxicomanie de la santé mentale, c'est ça l'acronyme, CAMH. S'ils tapent sur Google, ils vont tomber sur le centre de toxicomanie ou bien sur le site de la Commission de la santé mentale du Canada. Ils vont pouvoir trouver cette formation gratuite en ligne pour lutter contre la stigmatisation.
Bon, alors il y a un petit effort à faire, mais ça vaut le détour.
Voilà.
Merci beaucoup, Alice Charras, et à la prochaine. Bon colloque le 22 Merci. Mars.
Je vous remercie. Bonne journée.
Merci. Une nouvelle dans le droit, le Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, Centre de traitement pour enfants d'Ottawa, accentue d'un cran la pression sur le gouvernement provincial en vue d'obtenir du financement pour la construction d'un centre de soins de santé intégré, un projet évalué à environ 150 millions de dollars. L'initiative, qui germe depuis une décennie, consisterait à réunir sous un seul et même toit toute la gamme de soins de santé mentale et les services aux enfants et adolescents ayant des besoins particuliers. De multiples autres services seraient offerts à cet endroit, par exemple la réadaptation, l'ergothérapie, l'orthophonie ou encore le travail social. Le projet permettrait, dit-on, de simplifier le quotidien de quelques 40 000 familles de l'Est ontarien, afin qu'il n'ait dorénavant qu'une unique porte à franchir. Selon les plans préliminaires, on prévoit construire l'édifice de 6 étages d'une superficie totale de 18 500 m² sur le terrain adjacent à l'entrée principale du CHEO, où l'on retrouve actuellement des espaces de stationnement. Ce que l'on veut, c'est que l'ensemble des services soient regroupés pour simplifier la vie des familles qui ont grandement besoin de cet appui et pour qui le transport représente des dépenses supplémentaires, lance Louis Doyle, membre du conseil d'administration du CHEO, CTEO, donc le Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, Centre de traitement pour enfants d'Ottawa. Une rafale, le printemps arrive à grands pas, on le sent aujourd'hui d'ailleurs, avec le renouvellement de votre cotisation. Votre carte de membre de l'ASAC sera échue au 31 mars 2018. Voici donc les tarifs selon votre statut de membre. Membre individuel, 15 $, club de 0 à 50 membres, 50, club de 51 à 100 membres, 100 $, club de 101 à 150 membres, 150 $. Les informations pour devenir membre ou pour renouveler votre adhésion se trouvent sur le site Internet de la SAC au lien suivant sportaveugle@qc.ca/pour/devenir/membre. Je répète, sportaveugle@qc.ca/pour/devenir/membre. Voilà, c'est tout pour les paractualités du jour. En cette dernière journée de février, profitez-en bien puisqu'il fait beau, il fait doux. Et c'est Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute. J'espère vous retrouver dès demain. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Maurice Bolduc à la technique. Merci à mes invités, Léo Lavoie, coordonnateur de la formation au Centre de formation en alimentation et commerce du Québec, et Alice Charras, directrice générale du RACOR, le réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'Île de Montréal.